coq chanter le jour paraît, tout se debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Cette semaine, nous allons voir les défis qui s'opposent à l'agriculture au Togo. Nous avons donc rendez-vous sur le stand du Togo au Salon international de l'agriculture de Paris, édition 2017. Nous sommes attendus par le docteur Bonfort Bedibete, directeur général de l'Institut togolais de la recherche agronomique, Bagnom Kodjovi Cyril, secrétaire exécutif du Conseil interprofessionnel des filières café-cacao, un ecclésiastique, ce qui est une première dans l'émission Le Coq Chante, et enfin par Nathalie Panté, responsable de la production de la coopérative Choco Togo. Depuis quelques années, le secteur agricole au Togo bénéficie d'énormes investissements de la part de l'État et des partenaires au développement, surtout en milieu rural. Pour ce faire, plus de 600 milliards de francs CFA sont prévus au Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Ainsi donc, l'agriculture togolaise sur les 5 dernières années a enregistré des excédents alimentaires dans certaines spéculations. En dépit de toutes ces avancées, l'agriculture togolaise doit toujours consentir des efforts pour son plein développement. Notre premier interlocuteur, c'est le docteur Bonfort Bedibete, directeur général de l'Institut togolais de la recherche agronomique.
Merci beaucoup. Le Togo était un pays essentiellement agricole, où plus de 60% de la population s'occupe donc vite de l'agriculture. Et nous avons un potentiel agricole en ce qui concerne les sols, les ressources génétiques, végétales comme animales, bien adaptées à notre contexte. Depuis quelques années, ensuite, si nous prenons le secteur production végétale, le Togo enregistre depuis 3 ou 4 ans des excédents en produits céréaliers qui permettent même d'appuyer un certain nombre de pays dans la sous-région. Donc surtout au niveau du maïs, on a entre 50 et 60 000 tonnes d'excédents depuis 3 ou 4 ans. Au niveau du secteur aussi des plantes à racines tubercules, nous sommes aussi excédentaires, donc igname et manioc. Et en ce qui concerne la production animale, nous avons un déficit. Cependant, nous avons des ressources génétiques animales bien adaptées au niveau des bovins, des ovins caprins, de la volaille. Et il y a des actions de soutien à ces filières pour faire en sorte que dans les années à venir, nous puissions résorber ce déficit. Et par rapport aux enjeux majeurs de l'heure, le gouvernement a mis en place une nouvelle politique agricole qui est censée se centrer sur l'émergence d'un agriculteur nouveau, on peut dire comme ça, d'un secteur plus productif. En ce qui concerne la valorisation des ressources dont j'ai parlé, une gestion durable de ces ressources face au changement climatique. Il s'agit donc de faire en sorte que la productivité agricole soit améliorée. Donc il faut diffuser les techniques agricoles, il faut diffuser le matériel agricole le plus performant en ce qui concerne les semences et jusqu'à la mécanisation. Il faut aller vers la maîtrise de l'eau.
C'est la première étape, c'est ce que vous, scientifiques, vous appelez l'intensification.
Exactement. Il s'agira de produire plus. Donc l'intensification va consister à avoir accès à l'information scientifique et technique, au matériel végétal ou animal le plus performant possible, dont les semences améliorées, les engrais, même au niveau aussi des productions animales, la diffusion des géniteurs améliorés, ovins, caprins et coqs, l'amélioration des systèmes d'élevage, l'optimisation des systèmes d'élevage en gros. Et c'est ça que peut-être l'on peut entendre par intensification des productions agricoles en général. Parce que quand vous regardez un peu l'état des lieux, il y a un potentiel qui existe. Et les rendements actuels sont relativement modestes. On peut les améliorer, on peut améliorer ces rendements ou la productivité en général en adoptant les bonnes pratiques agricoles et en utilisant le meilleur matériel végétal disponible.
Docteur, ça c'est dans la phase de production. Vous avez parlé de valorisation.
Au niveau de la valorisation, le gouvernement a aussi, depuis quelques années, initié des actions d'accompagnement et d'appui pour la transformation des produits locaux. En appui avec les partenaires, donc la FAO, etc., nous avons des projets qui forment des femmes, qui jouent un grand rôle dans la formation agricole.
La transformation des produits agroalimentaires, traditionnellement, c'est l'affaire des femmes.
Oui, donc aujourd'hui, il faut, à partir du moment où nous voudrons aller sur le marché régional et international, c'est le respect des normes. Il faut faire en sorte que la transformation, dans la formation, les transformatrices aient connaissance des normes recommandées, exigées pour le marché, pour la sécurité des consommateurs. Je ne voudrais pas escamoter en disant que dans la politique agricole, il y a aussi un aspect très important qui est mis en œuvre, qui est engagé, c'est la mise en place des agropôles. C'est la valorisation d'un territoire ou d'un terroir de plusieurs milliers de kilomètres carrés autour duquel on met un agro-industriel qui va optimiser la valorisation, l'information d'un produit agricole. Et autour de cet agropole, il y aura des mesures ou des actions intégrées en ce qui concerne les pistes rurales, la santé, la communication, l'électricité. Et les jeunes seront donc amenés à rester en milieu rural et pour faire des options sur des cultures porteuses et contribuer au fonctionnement de cet agropole.
La palette nécessaire pour un réel essor du secteur de l'agriculture au Togo est vaste. Le tout repose en premier lieu sur la recherche agronomique. Le fer de lance de cette affaire, c'est l'Institut Togolais de Recherche Agronomique, ou ITRA.
L'Institut Togolais de Recherche Agronomique a pour mission de mener des investigations et des recherches pour élaborer des connaissances et soutenir les filières et l'agro-industrie.
C'est normal parce que si on parle de valorisation, d'intensification de paysans nouveaux, ça commence par la recherche scientifique.
Et à ce niveau, nous travaillons sur l'ensemble des filières, donc filière végétale, animale, aquacole, l'agro-industrie, la transformation et le traitement de toutes questions agricoles et jusqu'à comment gérer les sols. Il s'agira pour nous d'avoir une meilleure connaissance de l'état de fertilité de nos sols et à l'issue de cela, de proposer des systèmes de production ou de valorisation durables.
Donc vous faites le tour, vous analysez les sols.
Il s'agira de faire en sorte que les 6 catégories de sols connues au Togo soient caractérisés en termes de leur état de fertilité actuel, parce que aujourd'hui nous pourrons dire qu'il y a une forte pression agricole, il n'y a plus de jachères. Avant il y avait des jachères où on cultivait, on laissait la terre se reposer, il n'y a plus de jachères. Et face aussi au changement climatique, au phénomène du changement climatique, il faut faire en sorte qu'on ait une connaissance exacte de l'état de fertilité de nos sols. Il faut que la population prenne conscience de cette situation qui sera donc éclairée, qui sera connue. Et maintenant, il reviendra à la recherche, en collaboration avec tous les autres acteurs, de mettre en place des mécanismes de restauration et d'utilisation durable de nos sols. Parce que quand l'exploitant ou le cultivateur exploite ou cultive son champ, il y a des résidus de récolte. Dans la pratique, généralement, ces résidus sont exportés. Or, en les supportant, ils partent avec les éléments minéraux.
Ça veut dire que, par exemple, je sème, la plante puise les éléments minéraux, et moi, au lieu de laisser les feuilles, les tiges retourner à la terre, je prends ça.
Ou on les brûle, et ça fait une perte sèche d'éléments minéraux.
Et l'an prochain, je recommence.
Ou l'an prochain, je reprends, et 2 ans après, il faut partir. Alors qu'il n'y a plus la pratique de jachère où il faut laisser la terre 5, 6 ans, voire 20 ans sans culture pour qu'elle se régénère. Maintenant, il faudrait faire en sorte qu'on ait un mécanisme ou des techniques de nutrition de la plante à partir de la matière organique et de l'engrais chimique. Il faut une association. On ne peut pas exclure l'un contre l'autre. Il faudrait faire en sorte que l'agriculteur valorise ses résidus, qu'il fasse du compost pour être court, qu'il apprenne la technique de compostage et simultanément il pourra compléter avec les éléments minéraux essentiels qui manqueraient dans son sol. Parce qu'on connaîtrait le besoin de la plante, la capacité de son sol, l'exigence de la plante à cultiver et on va proposer à ce moment une nutrition, une technique de nutrition adaptée au sol.
Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur.
présent, voyons le secteur de culture d'exportation avec le cas spécifique du café cacao. Parmi les ambitions du Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, le Togo, qui est producteur moyen dans ce domaine, compte porter sa production annuelle à 30 000 tonnes de café et 25 000 tonnes de cacao. Il se trouve que les rendements actuels à l'hectare oscillent entre 250 kg à 700 kg pour le café et 300 kg à 600 kg pour le cacao. Or, le potentiel agricole existe et la production togolaise est de qualité. Bagnon Kodjovi Cyril est secrétaire exécutif du Conseil interprofessionnel des filières café et cacao, basé à Palimé, chef-lieu de la préfecture du Kloto dans la région des Plateaux, à 120 km au nord-ouest de la capitale Lomé.
C'est une organisation fêtière qui regroupe les producteurs, les exportateurs, les acheteurs et les transformateurs de café cacao du Togo.
Donc c'est l'affaire des commerçants et des paysans.
Oui, justement, c'est l'affaire des commerçants et des paysans et des transformateurs. Parce que ça, c'est très important.
Vous êtes du côté des paysans ou bien du côté des transformateurs?
Je suis à tous les côtés. Parce que je vérifie la production, je m'assure de la vente et je m'assure aussi de la transformation.
Donc c'est vous qui venez dire ça, c'est première catégorie, deuxième catégorie?
Oui, je donne les informations sur les catégories qu'il faut produire. Et je demande au contrôle de venir contrôler si réellement c'est la catégorie là qui est produite avant d'être vendue.
Le contrôle c'est qui?
C'est une structure de l'État qui est en partenariat avec nous et qui fait le contrôle de qualité des produits avant la vente.
Donc vous déjà même au niveau de la production vous êtes avec le paysan?
Oui justement parce que j'appuie le président dans l'acquisition des intrants, par exemple le matériel végétal, les produits phytosanitaires. Et même les sacs de conditionnement, parce qu'on fait le conditionnement primaire au niveau du paysan.
Conditionnement primaire, ça veut dire qu'on met dans les sacs en jute, quoi.
Justement, on met le café dans les sacs en jute et également le cacao. Et on les range dans un magasin sur des palettes pour que ça soit bien sécurisé.
Oui, on m'a dit que la première difficulté après la récolte, c'est les pertes post-récolte, parce qu'on ne sait pas toujours comment bien conserver ça.
Surtout pour le café. Si on rate le séchage, on obtient déjà des pertes là-bas. Si le séchage n'est pas bien fait, ça agit sur le décorticage. Parce que le café, lui, c'est les fèves qu'on décortique au moulin. Donc, si ce n'est pas bien sec, le moulin écrase les cerises qui sont mal séchées. Et celles qui sont trop séchées, il les casse. Ce qu'on recommande aux producteurs, au fur et à mesure qu'ils récoltent dans les 72 heures, on fait en même temps le séchage.
Au soleil?
Au soleil. Sur des clés surélevées, pas par terre. Pas par terre. Comme ça, le séchage continue même la nuit. Et la ventilation continue, fait sécher les cafés.
Bon, vous avez parlé des finances. C'est un gros problème quand on est producteur agricole en Afrique. Parce que les agriculteurs m'ont dit, nous, quand on va voir les organismes de crédit, ils nous donnent des délais de 3 mois, 6 mois pour rembourser, alors que notre saison dure une année, peut-être 9 mois.
Justement, le problème de financement de l'agriculture en Afrique en général se pose. Et beaucoup plus encore dans les filières organisées, café, cacao, par exemple chez nous, qui demandent beaucoup de sous. Si tu veux acheter une tonne de cacao, il faut débourser au moins 800 000, voire 900 000 en même temps. Or, pour exporter, il faut le minimum 2 conteneurs.
C'est-à-dire combien de tonnes?
36 tonnes qu'il faut exporter en même temps. Vous voyez déjà ce qu'il doit mobiliser comme financement. Et on ne prend pas le café ou le cacao chez le producteur sans payer. C'est cash. Voilà. Donc le problème du financement se pose à la fois aux commerçants et aux producteurs à base qui a besoin des intrants pour produire. Mais il n'y a aucune banque qui donne le crédit intrant. Donc le producteur se débrouille pour pouvoir produire. Et ça agit sur le rendement, la productivité.
Mais il y a un problème parce que le paysan ne sait pas comment fonctionne un système bancaire. Et le banquier ne sait pas parler aux paysans. Ce n'est pas une clientèle qu'il connaît.
C'est un vrai problème parce que moi, par exemple, je suis agronome de formation. Je suis un technicien, mais j'ai ma propre plantation. Et je suis obligé d'utiliser mon salaire pour venir payer les intrants, par exemple. Mais le producteur qui n'est pas fonctionnaire,
il n'a pas de salaire.
Il n'a pas de salaire. Son salaire, c'est quand la production est là. Mais il faut investir avant d'avoir la production. Donc c'est là où le problème se pose vraiment.
Mais c'est un blocage.
C'est un blocage, ça je vous le dis, c'est un blocage. Ce qui explique même le niveau faible des rendements au niveau de la sous-région. Quand on prend par exemple le Vietnam qui fait le café comme le Togo, le rendement au Vietnam c'est 2,5 tonnes à l'hectare. Alors qu'au Togo chez nous, c'est, pour le café c'est autour de 400 kilos à l'hectare. Vous voyez l'écart. Alors qu'on vend ces produits-là, ce café-là, dans le même marché.
Ah oui, là, vous ne pouvez pas faire la concurrence avec eux.
Voilà, là, la concurrence, c'est, nous sommes éliminés. Nous sommes éliminés de la concurrence parce qu'ils ont le même nombre de pieds à l'hectare, comme chez nous, mais leur rendement est 4 fois, voire 5 fois notre rendement. C'est ce qui vraiment nous élimine de la concurrence.
Mais comment faire? Vous avez résolu votre problème en imaginant votre microcrédit, mais est-ce que c'est suffisant?
Non. À vrai dire, notre microcrédit, c'est insuffisant parce que le fonds qui est là-bas, ça ne même pas couvrir les besoins de financement de la commercialisation. Donc vraiment, c'est un grand problème.
Est-ce que vous dites ça aux autorités?
Oui, nous on a toujours fait des plaidoyers. À chaque forum que le ministère organise, c'est toujours des problèmes qu'on débat, qu'on discute. Mais bon, nous sommes Thomas. Tant qu'on n'a pas vu là, et on n'est pas sûr. Il faut qu'on voit, il faut que ça se réalise, ça se concrétise, pour qu'on soit sûr que vraiment, on y pense à nous.
Mais ça c'est normal, tous les paysans de la terre sont comme ça.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Merci. Je vous remercie.
Merci beaucoup aussi.
L'ecclésiastique présent sur le stand du Togo au Salon international de l'agriculture, quant à lui, appartient à une communauté qui a développé une industrie agroalimentaire originale dans la préfecture de Dagny au sud-ouest du Togo. Ce qui nous intéresse, c'est le travail de transformation et de commercialisation du café.
Je suis frère François Amouzou, moine de l'abbaye de l'Ascension de Dagny au Togo. Nous sommes transformateurs de café de trois variétés, le Robusta, Arabusta et Arabica. Donc je suis venu exposer ces cafés avec les épices du Togo.
Vous avez une unité de torréfaction?
Nous en avons. Notre produit est vendu sur le territoire togolais, dans tous les supermarchés. Et au niveau de la sous-région, il y a le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Et au niveau international, la France, la Belgique et l'Allemagne. Nous sommes à la fois producteurs et transformateurs.
Ah, vous avez vos plantations?
Nous en avons à peu près 10 hectares de café.
Mm-hmm. Alors, moi, je viens d'interviewer des gens, ils m'ont dit que dans la phase de plantation, il y a des problèmes.
Effectivement, il y a des problèmes. Parce que d'abord, nous sommes confrontés à des intempéries, les aléas climatiques, et puis aussi à des ravageurs qui détruisent les plants de caféiers.
Je vais essayer de comprendre, c'est-à-dire qu'en début de saison, vous vous plantez, ça pousse, il pleut toujours. Au moment où la plante fait ses fleurs, il y a une coupure de la pluie.
C'est ça, c'est ce que Dieu nous a donné.
Et après, la pluie revient quand on ne peut plus rattraper ces fleurs-là.
Voilà, et ça revient.
Alors qu'est-ce que vous êtes venu faire ici?
Et nous sommes venus faire connaître notre produit, en même temps aussi, voir si on peut trouver des partenaires qui peuvent nous aider à améliorer notre production. Voilà.
Et vous avez pu rencontrer des gens depuis que vous êtes là?
Je suis arrivé seulement ce matin parce que je n'ai pas pu avoir le visa en temps. Du matin jusqu'à ce moment-là, je n'ai eu qu'une seule personne à qui j'ai discuté un peu sur notre production et commerce du café.
Mais ce n'est que le début?
Ce n'est que le début. Je crois qu'on a encore 5 jours. Donc je crois que en tant qu'homme de Dieu, je crois que j'aurai beaucoup de clients qui vont venir et j'aurai à gagner le marché.
On vous dit bon courage.
Merci beaucoup, monsieur.
Merci.
Nathalie Kanté est responsable de la production de la coopérative Choco Togo. C'est l'histoire de 6 jeunes Togolais qui ont eu la chance de participer à une formation sur la fabrication traditionnelle du chocolat en Italie. À l'issue de cette formation financée par l'Union européenne, ils sont rentrés au pays et ont pu constater que les producteurs se contentaient de vendre des fèves non transformées de cacao. face à cette situation, ils ont décidé de créer leur propre structure locale de transformation à Palimé.
Choco Togo, c'est la première structure au Togo à transformer le cacao en chocolat et autres produits dérivés. Donc c'est composé de jeunes. Et cette coopérative aussi emploie les femmes en milieu rural pour la transformation du cacao.
Moi, je suis venu sur le centre, mais vous ne m'avez pas donné du chocolat.
Mais il y en a plein. Revenez, vous allez déguster.
Alors, donc, vous avez dit produit dérivé. Quel autre produit?
Oui, à part le chocolat, nous utilisons par exemple le chocolat pour faire les cakes, le chocolat chaud, les toffees. Actuellement, nous sommes encore en train d'essayer de nouvelles recettes avec le chocolat fondant. Il y a plein d'autres choses que nous faisons.
D'accord. Alors, il y a combien de jeunes dans votre coopérative?
Une dizaine de jeunes. Nous avons vu qu'il y a le volet de transformation qui n'est pas développé chez nous au Togo. Il n'y avait aucune structure qui le faisait. Donc, ça nous a motivés à nous pencher sur ce volet parce qu'on a vu que les cacaoculteurs eux-mêmes ne connaissaient pas le chocolat.
Donc, ils cultivent le cacao mais n'ont jamais vu de chocolat?
Ah oui. Ceux qui connaissent le chocolat vous diront que nous avons goûté au chocolat Choco Togo. Ce sont eux qui nous ont apporté du chocolat. Sinon, avant, ils n'ont jamais, jamais, jamais vu le chocolat.
Alors, il a fallu une mise de fonds initiale pour démarrer la coopérative. Qui vous a aidé?
Au départ, c'est les jeunes qui ont composé. Nous-mêmes, nous apportons nos fonds, nos propres fonds par rapport à les petits trucs à faire. Il y a aussi la structure EFD Mère qui a...
C'est quoi cette structure?
Enfants Food Développement, c'est la structure qui a accueilli le projet premièrement au Togo où on a été formé en entrepreneuriat qui nous a aussi soutenus. Sinon, en grande majorité, c'est l'autofinancement.
Celle que vous avez cotisé?
Oui.
Chacun a apporté combien?
Ça dépend. Par exemple, pour aller dans un village pour former les cacaoculteurs, chacun apportait par rapport au budget. On faisait le budget, on divisait et chacun apportait.
Ah, parce que vous avez formé aussi les cacaoculteurs?
Oui, nous avons formé plusieurs coopératives de cacaoculteurs pour transformer le cacao eux-mêmes. Au moins, s'ils cultivent avant d'exporter eux-mêmes, ils n'ont qu'à savoir qu'ils peuvent faire quelque chose avec et manger eux-mêmes.
C'est quelle transformation ils font au village?
Ils produisent du chocolat.
Ah, ils produisent maintenant du chocolat?
Voilà, oui, oui. Nous les avons formés par rapport à une manière très simple, traditionnelle de produire eux-mêmes leur chocolat.
C'est-à-dire vous utilisez les matériaux du terroir?
Voilà, rien que les matériaux du terroir.
Qui n'est pas besoin de gros investissements?
Pas du tout.
Alors vous avez dit que vous employez des femmes, combien?
Une quarantaine de femmes. Voilà, au niveau de Palimé pour la transformation.
Ah, elle transforme aussi?
Oui, quand nous achetons les fèves, il faut faire les tri, les calibrages, il faut enlever les mauvaises graines, il faut faire le décorticage, tout se fait à la main. Et ça, ce sont les femmes dans ce milieu qui le font.
Ah, ça ne m'étonne pas parce qu'en Afrique, dès qu'un travail est difficile, on le laisse aux femmes.
Bon, ce n'est pas ça. Parce que ce que nous avons constaté, c'est que les femmes des cacaoculteurs, au Togo, les plantations sont de type familial. Tout le monde travaille, mais ce sont les hommes qui vendent, qui gardent l'argent. Les femmes sont plus lésées. Donc, ce projet, c'est pour permettre aux femmes d'avoir leurs propres revenus et de pouvoir satisfaire à leurs besoins au travers de ce projet. Il y a des hommes qui aussi veulent venir faire ce que les femmes font. Mais nous leur disons que ça, c'est réservé aux femmes.
Et ils ne sont pas contents?
Ils ne sont pas contents.
Et qu'est-ce que vous leur dites?
Bon, on va développer autre chose pour eux. L'occasion, là, c'est pour les femmes.
Bon, c'est votre enthousiasme ou bien ça veut dire que dans votre travail, vous n'avez pas de problème?
Quel que soit le travail, il y a des problèmes. Actuellement, par exemple, nous voulons réellement agrandir notre structure, nous voulons faire ci, nous voulons faire ça, mais il y a le volet financier qui colle.
C'est-à-dire que quand vous allez voir les structures bancaires, on ne croit pas en vous?
Bon, les structures bancaires, il faut les garanties.
Que vous n'avez pas?
Voilà, il faut ci, il faut ça, c'est un peu compliqué.
Vous ne pouvez pas leur dire que la plantation, ça peut servir de garantie?
Nous n'avons pas les plantations, nous achetons les fèves. Voilà, mais nous n'avons pas les plantations.
C'est vrai que quand on arrive entre les mains, on ne peut pas avoir de garantie. Bon, je vais essayer de comprendre. Vous avez appris le boulot, vous avez formé des gens autour de vous. Maintenant, ça marche. Il y a du cacao autour de vous, mais ce qui vous bloque, c'est le financement.
Oui, mais disons qu'actuellement, nous avons gagné un fonds compétitif au niveau de l'État.
C'est quoi un fonds compétitif?
C'est un fonds compétitif dans le domaine agroalimentaire.
C'est-à-dire que vous avez fait un concours et vous avez gagné?
Oui, voilà, nous avons postulé, nous avons présenté notre projet et on a gagné.
Vous avez gagné combien?
11 millions et quelques.
C'est déjà pas mal.
Oui, oui, c'est déjà pas mal. Ça va nous permettre d'acquérir d'autres équipements et puis faire la production.
Vous dites ça avec le sourire.
Ah ben, bien sûr.
Je vous remercie.
Merci à vous.
Nous étions dans le pavillon du Togo au dernier Salon international de l'agriculture de Paris. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Moshinsky, au micro Sayuba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante.